RMC.
PLM et tous les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va, on a le droit d'exister un petit peu ou pas?
Le Super Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh non, c'est du bordel de merde, c'est bon. Bordel.
Jean-Louis Tour.
C'est la deuxième heure de l'After avec vous, bien sûr, au 32-16 sur le hashtag RMC Live, sur la page Facebook de l'After, sur Direct Studio. Vous avez plein de moyens de communiquer avec nous, de participer à l'After, de nous envoyer vos réactions à nos différents débats, aux avis tranchés, comme ce fut le cas il y a quelques minutes, de Daniel Riolo, de Pierre Ducrot, qui sont toujours avec nous, et aux avis tranchés des drôles de dames qui arrivent tout de suite. Philippe Auclair est là en Angleterre. Salut Philippe.
Salut Jean-Louis. On est encore sur Facebook?
Oui, bien sûr. Facebook,
ah bon,
existe toujours.
On est en train de se faire pomper nos données personnelles, là.
Ah oui,
voilà.
C'est ça.
Eh ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux?
Mais ça, il faut abandonner, hein. C'est fini.
Mais moi, j'ai jamais été sur Facebook, donc tu veux,
même,
je te dire.
Même. On peut avoir accès à tes données personnelles, même si tu n'es pas sur Facebook.
Ah bon?
Bah oui, il y a des systèmes de.
Moi, j'ai arrêté Facebook il y a très, très, très longtemps.
Mais même si tu vas sur Google et que tu cherches un cadeau que tu veux offrir à ta femme, t'as des pubs qui arrivent dans la foulée avec le cadeau
sur tous les sites où tu achètes. Si tu vas voir une fois un truc, putain, ça revient sans arrêt après, c'est chiant ça.
C'était quoi?
Ouais. Bah, plein de trucs.
Là,
ça revient tout le temps.
D'ailleurs, t'as ta voiture là, c'est bon, t'as réglé ce problème là?
Ouais, j'ai réglé ce problème.
T'as fait quel choix alors? Le sponsor ou.
Alors, ça fait de la pub si on le dit n'importe
quoi. Non, mais.
Oui.
Le sponsor du club italien.
Le sponsor de la Juve, oui.
D'accord. Ah, voilà. Ah. En parlant d'Italie, donc Simone Rovera est avec nous.
Salut Simone. Non, j'ai pas.
Non,
j'ai arrêté, j'ai pas.
T'as pas été au bout.
J'ai pas mené à bien ce projet.
T'as fait un scoot, quoi.
Voilà. Je reste en scooter.
En ce moment, c'est
rien du tout. J'ai rien fait.
Fred Hermel est avec nous en Espagne. Salut Fred.
Hola, chicos.
Et David Lorto en Allemagne. Salut David.
Allo, Fred. Salut, messieurs. Salut à tous.
Messieurs, vos avis tranchés, évidemment, comme tous les lundis. On va commencer d'ailleurs par l'Angleterre, on y va. Jingle Philippe Auclair.
Scandaleux, mais je dis bien scandaleux. J'en ai plein le cul de ce mec. Va te faire voir, va voir ailleurs si j'y suis.
C'était la version non expurgée.
C'est la version diffusable.
Voilà, diffusable oui. Après 23h, heure française.
Exactement. Et comme d'habitude, je vous renvoie, je crois que sur YouTube, il y a l'intégralité.
Oui, oui, je peux dire ça, je reçois toujours.
C'était sur Charlie Beritange. Voilà.
Oui, magnifique. Absolument.
Alors, Philippe, là, tu veux nous parler, d'un autre joueur de Liverpool.
Oui, de Mohamed Salah. Pas tout à fait le même genre de joueur.
Tu nous en as déjà parlé de ça, là, dis donc.
Oui, non, mais écoute, on peut remettre une couche et je suis ravi de remettre une couche, de faire un millefeuille, de faire une moussaka, enfin, quand tu pourras appeler ça comme tu voudras, un gratin dauphinois.
J'en ai mangé un ce soir, millefeuille.
Hein, c'est très bon.
Ça fait très longtemps, c'est bon.
Mais non, tout simplement, non, bon, quand on en avait parlé, Daniel, c'était pour dire, on a eu tort, on s'est trompé sur ce joueur, je m'étais trompé sur ce joueur, je ne pensais pas qu'il serait capable de faire ce qu'il faisait au début de la saison avec Liverpool. Je me souvenais du joueur de Chelsea, qui était un joueur qui était assez malhabile devant le but, on pensait un petit peu à un tout droit, qui a de la vitesse, machin, tout ce qu'on voudra, un peu de technique. Non, mais là, tout simplement, ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est tout simplement la naissance d'une véritable superstar du football, non seulement de Liverpool, non seulement d'Angleterre, mais du football mondial.
Demande à Simone, c'était un peu pareil à Rome.
Oui,
non,
mais on en a parlé un petit peu à Rome, absolument. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a...
C'était difficilement envisageable, en tout cas à ce niveau-là.
Tu vois, on va pas s'arrêter aux stats qui sont absolument hallucinantes. Et comme par hasard d'ailleurs, on a encore un de ces joueurs qui marque énormément et fait marquer énormément et qui n'est pas un véritable avant-centre. Et en ce quoi il ressemble à Lionel Messi, à Cristiano Ronaldo, voire même à Neymar, en ce sens que ce sont pas de véritables avant-centres au sens propre du terme qu'on le concevait, mais des joueurs plutôt de côté,
pas des
qui
neufs,
ont beaucoup
quoi.
De liberté. Ouais, c'est pas des neufs. Je sais pas comment on pourrait les qualifier. Les stats sont absolument hallucinantes. Il en est à 28 buts en 30 matchs de Première Ligue et 36 buts en 41 matchs avec Liverpool. Encore une fois, on le répète, il n'est pas avant-centre, il ne tire pas les pénaltys. Je crois qu'il en a tiré un cette saison. Il tire pas les coups francs. C'est des buts dont la plupart ont été créés par lui-même, même s'il doit énormément au travail de Sadio Mané, au travail de Roberto Firmino en particulier, qui est un véritable avant-centre et qui est un joueur absolument magnifique, qui est totalement sous-estimé, on en reparlera une autre fois. Mais ce en quoi on est en train d'assister, c'est à la naissance d'une véritable superstar, et une superstar pour moi à visage humain. Et c'est ça la vie tranchée, c'est que il est différent des autres, en ce sens que... Moi, quand je vois Mo Salah jouer, j'ai eu de la chance d'être à Liverpool, où on se gelait tous dans les tribunes, il faisait moins 2, plus le vent, c'était catastrophique. Mais on avait ce spectacle magnifique d'un joueur en pleine possession de ses moyens.
À une époque, t'aurais pu venir au show chez moi, hein, parce qu'il était, excellent sur ma télé pendant une saison entière. Il était titulaire dans mon équipe.
Mais là, tu coupes Philippe pour ça.
Oui, non, mais c'est quand même.
Mais enfin, c'est quand même une invitation.
Quand je retrouve, à chaque fois que je retrouve un joueur qui était titulaire dans mon équipe fut,
oui, d'accord.
Mon cœur, moi, se souvient de ce moment.
Et ben voilà. Mais là, ce que tu.
Il y était, lui.
Ce que tu as, c'est, tu as une communion avec son public. Tu as une communion avec ses coéquipiers, avec son entraîneur, avec son pays natal, avec le monde arabe également, dont il est devenu un symbole, mais alors hyper positif. Je sais pas, moi j'ai un joueur qui aujourd'hui, j'étais convaincu que j'allais voter pour Kevin De Bruyne comme footballeur de l'année à la fin de la saison.
Ah non, moi ça me fera pas changer ça.
Mais là, et c'est pas seulement à cause des performances sur le terrain, c'est aussi à cause de cet homme.
Attends, la Ligue des Champions pour te décider.
Oui, mais il y a des choses qui sont des impondérables.
Mais alors, pardon,
les footballeurs qui te font te dresser sur ton siège.
En plus, c'est bien, les deux vont se croiser en Ligue des Champions, c'est génial.
C'est magnifique, et de toute façon, l'un comme l'autre seraient et seront des magnifiques lauréats de cette distinction.
Ouais, ouais,
ce sont
bien.
Des joueurs comme on les aime, c'est des joueurs qui, pour qui le football reste un sport collectif.
Philippe, pardon,
excuse-moi. Parce que je pourrais continuer longtemps sur Mossala,
mais on va continuer ensemble, il n'y a pas de problème, et Pierre et Daniel, vous allez pouvoir réagir.
Non, c'est tout, moi j'ai tout.
Très bien, alors Pierre, sur la distinction individuelle, oui, ça, tu feras ton choix, il n'y a pas de souci. Mais pour dire que c'est une superstar, est-ce qu'il ne faut pas attendre un peu plus de référence dans les grands matchs?
Dans les grands matchs, attends, il en a joué quelques-uns des grands matchs, enfin en championnat d'Angleterre en tout cas.
Ouais.
Il s'est pas véritablement
ouais,
porté.
Les gens lui l'habitude de Dijon, tout ça, donc les grands matchs.
Non, mais
en Angleterre, il y en a toutes les semaines.
Il y a le match contre City effectivement que j'ai en tête, mais moi j'attends
peut-être
en Ligue des
Champions
aussi. Il a marqué
contre Arsenal, il a marqué contre Spurs, et en fait il a marqué plusieurs fois contre Chelsea d'ailleurs. Il a marqué plusieurs fois contre Arsenal également.
Vous dites c'est une superstar.
Il a marqué contre Manchester City.
Non, pour l'instant, c'est le joueur de cette saison qui est absolument extraordinaire. Et qui est au-delà des attentes qu'avaient 90% de tous les observateurs qui voyaient un joueur capable de faire des choses folles. Mais moi d'ailleurs, quand il était à la Roma, il me faisait souvent penser, alors c'est peut-être le fait que justement ils aient été dans le même club à un moment, mais à Gervinho.
Gervinho, ouais.
Voilà.
Oui.
Et j'avais peur qu'il ait un peu le même destin, et en fait pas du tout, il est bien meilleur, mais parce que techniquement, déjà, il est bien meilleur. Ouais, techniquement,
je
ce qu'il fait avec le ballon.
Jérémy Ménès, à la comparaison, parce que.
Ça, faut pas déconner, quand même.
Techniquement, Jérémy Ménès.
J'ai arrêté d'avoir des espoirs au sujet de Ménès assez vite, à peu près.
À Sochaux?
Oui, à la fin de Sochaux, voilà.
C'est méchant. Pierre, qu'est-ce t'en penses?
Mais en fait, non, ça là, c'est.
Moi, bon, il y a une chose. Je vais être un peu plus patient pour dire que c'est une superstar. Je suis d'accord avec Philippe pour dire qu'il est exactement dans le même registre que les Neymar, Messi, etc. Ces joueurs qui aiment partir du côté, qui peuvent dans des surfaces de réparation, dans des petits espaces comme on vient de voir en boucle là, s'en sortir au mieux 3-4 défenseurs parce que techniquement c'est du haut vol, mais il faudra attendre qu'il y ait 2-3 voire 4 saisons comme ça pour être traité de superstar comme un Neymar, comme un Messi, comme d'autres joueurs de ce type-là. Mais effectivement, il est...
Pierre, je n'ai pas dit il est une superstar, j'ai dit il devient une superstar. Il y a une nuance très importante là-dedans.
C'est vrai. Elle vient de naître, donc il faut qu'elle grandisse.
Elle est en train de naître sous nos yeux.
Encore, c'est vrai.
Absolument.
Ouais, ouais.
Mais ce que l'on voit également, mais pour moi, c'est pas seulement, si tu veux, les stats, l'efficacité, tout ce qu'on voudra, c'est aussi ce qu'il représente.
Ce qui dégage,
c'est le plaisir de jouer, le plaisir partagé. Le collectif,
ouais, puis le côté humble du garçon à chaque fois qu'il marque un but
du garçon, c'est ouais. C'est le genre de joueur, encore une fois, tu vas au stade, c'est pour voir des joueurs
ouais,
comme
on
ça.
Ouais, on s'attache à ce genre de joueur.
Il y a un attachement émotionnel très très fort.
Là-dessus, je t'en rejoins, ouais, je suis d'accord.
Et c'est pour ça, moi, c'est une superstar émotionnelle. C'est pas encore une superstar à d'autres points de vue, mais moi, il m'a tellement épaté. Ce n'était que Watford, bien évidemment, mais il a marqué contre les autres Spurs également.
Il a un but contre Watford, c'est méga réussite, hein.
Et encore que Watford, genre, Watford cette saison, c'est pas mal, le gardien,
il plonge à l'envers.
Je crois que c'est le quatrième but.
Il est un peu touché par la grâce aussi cette année.
Mais il est un peu touché par la grâce, mais en même temps, sur ce but-là, et j'ai le but en tête, il peut tomber deux fois, se laisser tomber deux fois sur la surface, il y a deux fautes sur lui.
Exactement. Et il joue, et il continue.
Ils jouent. C'est le jeu. Et moi, les footballeurs qui incarnent le jeu, et ils peuvent être attaquants, ils peuvent être défenseurs, gardiens, tout ce que vous voudrez, mais c'est les joueurs que moi je mets au-dessus de tout. Et ouais. C'est pour ça que je te dis, il est en train de devenir une superstar, en train de devenir, il ne l'est pas encore.
Et, ah oui, mais non, mais il y a des fins, Jean-Louis. Non, parce qu'il faut, dire ce qui se passe sur le plateau.
Excusez-moi.
Pendant qu'on voit le double crochet de Salah, Jean-Louis, non, tu hausses les yeux au ciel, l'air de dire, ils jettent tous en même temps.
Sauf non, le que gardien, là, moi je parle du gardien, je parle pas des défenseurs.
Parce que quand il revient, quand il fait le premier crochet et qu'il revient sur son pied droit, t'es quasiment obligé de penser qu'il va frapper après. C'est pour ça que tout le monde se jette. Pierre, et le deuxième crochet, il est magnifique en ça.
Je salue ta pugnacité à défendre.
Mais oui.
Mais là, non.
Mais je pense que le gardien ensuite il est plus sous ses appuis du coup parce qu'il a déjà anticipé lui aussi
ça c'est sûr qu'il est plus sur le
pied droit.
Il a sauté il y a une demi-heure. Bon, Simone, tu voulais faire un mot avant de passer à la
question. J'aimerais bien vous voir ma face au crochet de Salah moi. Tiens, si vous vous jetez pas.
C'était un mot mais peut-être aussi une question mais là je pense que tout le monde va me tomber dessus.
Non.
Je trouve qu'il a une saison extraordinaire, une réussite extraordinaire. Mais ça me rappelle un peu les Mahrez de la saison du titre de Leicester, qui personne ne s'attendait à ce niveau, sort des matchs extraordinaires, et là, il faisait ça avec Vardy, il n'était pas entouré des Mané, des Wijnaldum, des Firmino, c'est pas la même chose. Donc, je trouve que c'est l'année extraordinaire.
Ouais.
Ouais, non, mais Mahrez, on a un petit peu perdu
à un certain niveau. Perdu
Il est revenu.
Il est revenu, c'est sûr. Okay.
Alors, l'actu, Philippe, tu voulais revenir sur Tottenham, les Spurs qualifiés pour les demi-finales de la Cup.
Et franchement, quand tu vois la réponse de Tottenham à cette énorme déception face à la Juve, on va pas revenir sur ce match ou sur ces deux matchs. Mais la façon dont Tottenham a réagi est assez exceptionnelle et la façon dont ils ont réagi en l'absence de Harry Kane ce week-end, c'était pas un déplacement évident du tout.
On sait jusqu'à quand il en a alors lui maintenant.
Écoute, je pense deuxième semaine d'avril, pas plus a priori. Donc il sera pas disponible pour les matchs amicaux de l'Angleterre contre les Pays-Bas et contre l'Italie.
Nous on le veut à la Coupe du Monde, hein. On veut que toutes les équipes aient les meilleurs joueurs.
On est bien d'accord, hein. Mais il sera là, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Mais on a vu un super Christian Eriksen, je vous apprends rien en vous disant que ce joueur est une pure merveille.
Oui.
Et il l'a montré avec le Danemark, il le montre avec Tottenham. Et pour
il
moi,
peut faire chier l'équipe de France lui ou pas?
Il est excellent.
Alors, on fera un reportage dans Transversal sur lui. Justement.
Christian Eriksen. Alors là, avec grand plaisir.
Qu'est-ce qu'il est fin à voir jouer quoi.
Ah oui, très beau joueur.
C'est un vrai beau joueur et cette équipe de Tottenham où elle m'épate par sa réaction. Elle est maintenant en demi-finale de la FA Cup. Bon, on sait qu'ils ont besoin d'un titre. Ils ont vraiment besoin d'un titre maintenant. Ils vont en plus avoir l'avantage de jouer cette demi-finale à la maison. Et oui, puisque le demi-finale se joue à Wembley.
C'est quoi le tirage?
Je sais pas en fait.
Tu sais,
de la Cup.
J'ai complètement zappé.
On l'a pas. Parce que comme tu disais ça, j'ai cru que tu savais.
Chelsea, Southampton
et Tottenham contre Manchester United.
Bon, Tottenham contre Manchester United.
Donc c'est à Old Trafford alors.
Non, à Wembley.
J'ai Manchester Tottenham en premier, mais je sais pas.
Non, mais Manchester, c'est simplement ça définira quelles seront les couleurs qui seront portées par les équipes.
D'accord.
Les deux matchs se jouent à Wembley le même week-end.
Ah, les demi-finales.
Ah oui, d'accord, ok. Absolument.
Ah oui, c'est pour ça qu'ils jouent, à domicile, d'accord. Ok.
Voilà, c'est pour ça qu'ils jouent à domicile.
Ah oui, donc Tottenham, Manchester,
pas, ça,
et
Chelsea contre Southampton. Oui, absolument. Il va y avoir. Oui, c'est une demi-finale qui pèsera très très lourd dans le
même jour
de l'un et l'autre
club.
Alors un le samedi et un le dimanche.
D'accord.
Donc on a un week-end où on aura deux demi-finales donc de la FA Cup.
Oui, je suis idiot. C'est pas facile d'organiser quand même.
Dis ça, mais la FA étant ce qu'elle est, j'aurais pas du tout été surpris s'ils avaient organisé les deux demi-finales le même jour.
Ils sont tous les supporters d'un match rentrer,
absolument. Enfin bref. Donc, mais ceux qui portent à faux le jugement de Pep Guardiola sur le fait que Tottenham était l'équipe de Harry Kane et rien d'autre, non pas du tout. C'est une équipe qui est bien plus que Harry Kane. Et notamment, c'est aussi Christian Eriksen, c'est Sang Heung-min. Mais encore une fois, Christian Eriksen.
Qui joue neuf quand il est pas là alors?
En l'occurrence, ils avaient fait jouer Son, mais en faux numéro 9,
vraiment de 9 10.
Le 9 type, ça serait Llorente, mais le problème c'est que Llorente quand il a joué, il n'a pas été grandiose
quoi. En fait, on l'a complètement oublié, il a disparu le mec hein.
Mais il avait joué le match aller et Fred s'en souviendra sans doute du match en phase de poule au Bernabeu.
Non, Fred ne peut pas s'en souvenir. Fred ne connaît qu'un seul numéro 9. Il n'y en a qu'un sur Terre, sache-le. C'est celui qui refuse les mains tendues.
Ah, je pensais Gonzalo.
Je sais pas, c'est pas moi, tu sais, moi je travaille pas sur l'équipe de France, donc
ah, d'accord.
Okay. Dans mon contrat c'est pas marqué, donc
ah oui, je voilà, savais pas que tu cloisonnais
à ce
point.
C'est pas ma circonscription. Je parle plus des clubs français, je parle pas de l'équipe de France, c'est pas ma circonscription.
D'accord, voilà. Très bien.
Bon. Donc Llorente a joué ce match contre le Real Madrid, mais il a pratiquement pas joué, donc c'était Son qui jouait.
C'est un bon joueur Llorente, hein, franchement. Hein.
Ouais, mais il a été formidable l'année dernière quand il était à Swansea, et je crois qu'il lui a un gros problème d'adaptation à Tottenham. Peut-être que le jeu de l'équipe ne lui convient pas, mais bon, peu importe, il n'est plus utilisé véritablement par par Mauricio Pochettino, donc c'est Son qui pour l'instant va faire le boulot, mais encore une fois Harry Kane va revenir juste après la trêve internationale. Donc il y aura pas de problème.
Dis-moi, Philippe,
pour Tottenham. Oui,
tu voulais qu'on parle de Manchester United et des nouvelles sorties de Mourinho.
Juste avant, excusez-moi le langage, mais j'en peux plus moi.
Oui, je sais. Donc on va faire vite, t'inquiète pas. Juste avant quand même, l'après Ligue des Champions là, l'élimination de Séville, les déclarations de Mourinho, etc. Quelques jours ont passé depuis. Il n'y a pas eu de suite.
Bah des suites, il y en a en permanence parce que on.
Non, mais je veux dire de la direction de Manchester, tu vois.
Non, absolument zéro.
Ah ouais, ok.
Absolument zéro
quand même. Hein.
Mais tu sais, c'est le côté.
Et dans les médias, les suiveurs de Manchester, des gens importants.
Là, par contre, ça
des anciens joueurs de Manchester.
Oula, ça taille.
Ah, ça, je sais pas, ça. Dis-nous, ça. Qui?
Ah, bah, non, mais.
Je sais pas, Gary Neville, des mancuniens pure souche, là, ça dit quoi?
Oui, bah, tout le monde tranche dans l'art, en l'occurrence, hein. La tentative de déviation, je dirais, de José Mourinho de l'extérieur du pied après le match contre Séville, n'a convaincu que très peu de personnes. Bon, on a eu ce soliloque de 12 minutes de long qui était une aberration totale, qui était pour moi une insulte au passé de Manchester United. Ça, c'est un point de vue qui est le mien, mais que partagent beaucoup de supporters de Manchester United.
Je te rejoins.
Et après la victoire contre Brighton, qui était attendue et qui a été un boulot professionnel, fait professionnellement, il a totalement déchiré ses joueurs et il s'en est pris. Alors là, Pierre, je me tourne vers toi parce que tu es celui qui peut nous en parler le mieux. Mais quand tu t'en prends nommément à tes joueurs qui étaient sur le terrain et que tu les accuses grosso modo d'avoir trahi leur équipe, je suis désolé, il y a un gros problème. Fais ça dans le vestiaire.
Il l'a souvent fait. Hein.
Ouais, voilà. Le souci, tu commençais à le dire.
Et il le fait, Pierre, avec des joueurs qui ne lui répondront pas parce qu'ils n'ont pas le statut pour lui répondre. Et ça, c'est de la lâcheté.
Et t'as tout dit. Le problème, c'est que c'est déjà quelque chose que tu fais normalement dans le vestiaire. Alors peut-être qu'il le fait dans le vestiaire, mais tu le fais que dans le vestiaire, c'est largement suffisant. Si vraiment t'as une paire de trucs dans le caleçon et que tu veux mettre au point, ça moi j'ai toujours été d'accord pour qu'un coach le lendemain du match ou le soir du match cite nommément dans un vestiaire les problèmes qu'il y a eu avec des individualités. J'ai toujours eu horreur d'un coach qui disait il y en a ici qui peuvent pas se regarder, parce que la plupart du temps ceux qui devraient pas pouvoir se regarder dans une glace, c'est pas eux qui font leur autocritique. Donc ça, j'ai toujours été pour, dans un vestiaire, cibler les joueurs. En dehors, dans la presse comme ça, ça n'a pour moi aucune utilité, et ça devient tellement répétitif avec cet homme là que moi ça me fait un peu peur pour Manchester, quoi. J'ai l'impression que ça peut exploser un club comme Manchester, quoi. Manchester,
pense
c'est fou quand même.
Pierre, pense à une chose.
Il va falloir qu'on s'arrête, Philippe.
Alors excusez-moi,
mais vas-y, pense-moi
une
chose.
Pour une fois que j'allais penser
Non, mais tu attaques un joueur qui est sous contrat avec ton équipe, qui a un an de contrat, en l'occurrence à Luke Shaw, l'arrière gauche. Ça veut dire que tu dévalues le club au niveau public. Ça veut dire que tu dévalues également un actif de ton club. Mais je suis désolé, mais si jamais tu es l'employeur de ce mec, mais tu le vires.
Après la Ligue des Champions. Allez, on s'arrête sur l'Angleterre, Philippe.
Tiens, en parlant d'actifs du club, il y en a un qui fait des appels du pied très fort au PSG.
Ah oui.
Ah oui.
Initial AC.
Ah bah s'ils veulent continuer à faire des conneries, le PSG là, ils y vont tout droit là.
Ah oh, JF,
là c'est parfait là. Ils peuvent faire Pogba Mourinho.
Mourinho Ronaldo.
Je te dis que c'est Enrique qui tient la corde.
Allez, dans un instant là, l'Espagne, on file voir
tout bien chapeauté par Alves.
Tranché sur l'Atlético de Madrid dans l'after sur RMC sur BFM Sport. À tout de suite.
RMC, le super football show. L'Afterfoot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot dans l'After, on est ensemble encore quelques minutes jusqu'à minuit. Les drôles de dames sont là. Philippe Auclair, Fred Hermel, Simone Rovera, David Lorto. Vous êtes là également au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. On a notamment ce message de Renan qui nous dit « Mais pourquoi vous avez fait 20 minutes sur le chouchou pas bon de Daniel ?» C'est incroyable. Alors c'est pas le même Salah. En fait, c'est ça le truc.
Ah oui.
Entre le Nantais et celui de Liverpool. On enchaîne, on file en Espagne. Jingle Fred Hermel. Allez. Jingle, quelle est la meilleure ligue?
Quelle est la meilleure ligue du monde?
Frère, de derrière, tu penses trop. Caca, tu es nul. Caca, tu es nul.
C'est l'autre, l'autre variante. Bah oui. Alors Fred, tu veux nous parler de l'Atlético et de Simeone?
Eh oui, les amis. L'Atlético a changé, mais pas Simeone. Mais pas Simeone. Oui, c'est pas ta faute.
Simeone non plus, d'ailleurs.
Simeone non plus. Il n'est pas changé. Chantait Rulli Iglesias. Et c'est bien ça, le gros problème de l'Atlético, c'est que, rappelez-vous, cette équipe magnifique de 2013-2014, qui gagne la Liga, qui arrive à la finale de la Ligue des Champions, qui est à, quoi, 50 secondes de son premier titre en Ligue des Champions de son histoire. Et il se trouve que, oui, à l'époque, la solution, c'était Simeone. Aujourd'hui, j'oserais dire, c'est un avis tranché, hein, donc c'est toujours un peu marqué, que Simeone est peut-être en train de devenir le problème de l'Atlético. Il a été la solution. Son arrivée a tout changé. Mais aujourd'hui, il est vraiment un frein à l'évolution d'une équipe. Parce que, quand vous avez un Griezmann, quand vous avez un Vitolo, quand vous avez un Coquet, quand vous avez un Saúl, quand vous avez ce genre de footballeurs qui sont des footballeurs offensifs, qui sont techniques, qui peuvent marquer beaucoup de buts, et on l'a vu c'était les huitièmes de finale de la Ligue Europa où ils gagnent 8-2 sur les deux matchs contre le Lokomotiv Moscou, quoi. C'est une équipe qui peut marquer beaucoup de buts. Alors vous savez la vieille méthode de Simeone qui est on met un but et après on ferme tout et puis on tient le résultat jusqu'au bout, ça a marché en 2013-2014, ça a parfois marché après. Sauf qu'aujourd'hui ça marche plus. Cette équipe de l'Atlético, elle est plus forte aujourd'hui quand elle gagne, parce qu'elle marque plus de buts. C'est pas un but qui suffit. On en met un, on en met deux, on en met trois, et si on en prend un, c'est pas grave. La méthode Simeone, ben on a vu ses limites hier, et lui-même a reconnu qu'il s'était planté. Match à Villarreal, très bon Atlético, l'Atlético mène grâce à un pénalty transformé par Antoine Griezmann, et que fait Simeone à 10 minutes de la fin? Ben il enlève Griezmann, il fait rentrer Gabi, il renforce tout, il demande à ses joueurs de tout resserrer les lignes, de passer par derrière, etc. Et puis finalement ça condamne l'Atlético, parce que aujourd'hui l'Atlético, les joueurs de l'Atlético n'ont plus les caractéristiques nécessaires pour le système de Simeone, pour cette philosophie là. Et lui aujourd'hui veut imposer quelque chose que ses joueurs ne savent pas faire, ne savent plus faire, et je dirais même n'ont plus envie de faire. Donc c'est aujourd'hui le problème de cet Atlético. Et je pense que Simeone a fait son temps.
Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel, Pierre?
Bon, pas grand-chose, je sais pas là-dessus.
Non, après moi d'un point de vue,
c'est peut-être logique aussi qu'il aille voir ailleurs.
Et d'un point de vue général, c'est coachs qui sont qui demandent énormément aux joueurs sur le plan physique. Il y a effectivement tout le temps une sorte de lassitude et une sorte de c'est trop contraignant pour que ça dure longtemps, et comme le dit Daniel, ça a déjà duré pour moi plus longtemps que beaucoup de coachs qui ont un peu ce système de jeu très contraignant pour les joueurs, parce que un, t'es usé, et deux, mentalement surtout c'est compliqué pour les joueurs de tout le temps adhérer à ça.
Tu prends moins de plaisir en plus, parce que les joueurs ne le disent pas ou le disent même à demi mot publiquement, mais
ils discutent pas
avec eux en off. Certains disent ouais, avec les mecs qu'on a, ils sont parfois un peu bridés.
Voilà, la difficulté pour les joueurs de le dire là, c'est que c'est compliqué parce qu'il y a quand même des résultats, donc ouais, tu peux pas trop le dire. Quoi, c'est ça, pour
ils sont encore deuxième,
ça marche pas mal quand même.
Ouais, non, mais sauf que là, ils sont à 11 points du Barça, mais au moins ils pouvaient maintenir un certain suspense encore un petit peu, etc. Mais là, la défaite à Villarreal, c'est un match qu'ils auraient dû gagner. Et même s'ils étaient égalisés, t'as Griezmann qui est ton meilleur buteur, en plus qui est dans une forme extraordinaire, Griezmann qui a envie de jouer encore, tu sacrifies un ton meilleur buteur pour renforcer ton milieu, enfin surtout la défense en gros, hein, parce que Gabi quand il rentre c'est pour faire un travail uniquement défensif.
Mais Fred, trouves pas qu'à contrario il a banalisé quelque chose d'exceptionnel, de voir l'Atlético aussi haut au classement régulièrement, avoir 4 points d'avance sur le Real, tu vois, c'est exceptionnel.
Ouais. Bien sûr, parce que l'Atlético c'est le loser. C'est le club loser, c'est le président Calderón qui a donné son nom au fameux stade qui il y a plus de 40 ans avait dit nous sommes nous sommes le maudit football club. C'est-à-dire que c'est le club de ceux qui souffrent, le club de ceux qui marchent pas. le club de ceux qui perdent tout. Bon, ils ont perdu deux finales de Ligue des Champions, les pauvres, enfin trois avec celle d'il y a 40 et quelques années, mais c'est dans le football moderne depuis en 5 ans, là, ils ont perdu deux à chaque fois sur le Real, contre le Real. Mais l'Atlético est beaucoup plus haut que tu as raison.
Est-ce qu'il y a un classement des équipes qui ont le plus perdu de finale de C1?
C'est la Juve. Ouais. Mais c'est vrai que l'Atlético était en sur-régime,
non,
tu as raison.
Non, pas fait cette finale perdue.
Ouf. La Juve.
Non, t'es sûr?
Non, finale européenne, tu veux dire peut-être à ce
moment-là. Non, moi je parle de C1.
Ah, des C1.
Ah,
des
oui.
Alors, on va les compter toutes,
97,
là,
97, 98, ah, oui,
2003. Okay. Surtout voilà. Que c'est le sujet, là, ce soir.
Ça, c'est ça, ça fait 5, j'en ai 5, là, déjà.
Alors, Daniel, je t'invite à compter tranquillement avec Simonet en antenne. Et on finit avec Fred.
Continue, on va compter. Moi, j'en ai 5, finale de C1.
Non, mais pour ma question, c'est intéressant, c'est que l'Atlético, c'est vrai que c'est un peu dur de dire ce que je dis sur Simonet. Parce qu'on est quand même en sur-régime par rapport à ce que peut et doit donner cette équipe. C'est-à-dire que, voilà, l'Atlético, c'est, je vais même dire que gagner l'Europa League, c'est peut-être la remettre à son vrai niveau historique. Tu vois,
ouais,
ce qui est bien déjà de gagner l'Europa League, mais l'avoir deux fois en finale Ligue des Champions, ça correspond pas tellement finalement à l'ADN de ce club, qui est plutôt un club qui ne réussit pas bien.
Tu voulais nous dire un mot de Ronaldo aussi, inévitable. Hein.
83.
Oui. Donc c'est, alors, si tu permets, on va continuer sur
le trio de tête. Excusez-moi, c'est Juve, Benfica, Bayern.
On a Yassel contre Hambourg en 83 aussi. Ça fait 6. J'en ai à 6 moi.
Très bien.
Fred. Non, si tu me permets, on va parler de Cristiano, mais comme on est sur l'Atlético, de Lucas Hernandez.
Oui.
Parce que c'est important pour les Bleus. Parce que Lucas Hernandez a été titulaire hier comme latéral gauche et il va sûrement l'être toute la saison. Enfin, en tout cas, jusqu'à la fin de la saison. Pour une raison très simple, c'est que Philippe Luis, qui est le titulaire à ce poste, s'est brisé le péroné, fracture du péroné l'autre jour lors du match à Moscou contre le Lokomotiv. Et donc, la saison est terminée pour le Brésilien. Et donc, la seule solution, en tout cas la solution la plus évidente pour Diego Simeone, c'est de faire jouer Lucas Hernandez comme latéral gauche. Ce qui veut dire qu'on a un joueur qui est bon, on l'a évoqué l'autre jour, qui est un joueur très discipliné, etc., qui est pas forcément un latéral très offensif, mais en tout cas, défensivement, il fait bien le boulot. Et là, pendant tous les matchs d'ici à la fin de la saison, en plus avec des matchs compétitifs, parce qu'il va jouer, contre le Real dans 15 jours, il va jouer la Ligue Europa, etc., avec un Atlético qui a de grandes chances d'aller jusqu'au bout. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. L'alternative de Hernandez sera d'autant plus bonne qu'il va vraiment beaucoup jouer à ce poste latéral gauche.
Très bien, c'est une bonne nouvelle donc pour l'équipe de France. C'est bien 7 sur 9, Simonet ?
Oui.
Bravo pour la vue.
83 et 73.
Voilà, parfait.
83 contre Hambourg.
Fred,
Félix Magat.
Et tiens, bah, en parlant de l'équipe de France, sur Dembélé aussi, tu voulais dire un mot?
Parce qu'on est sur les bleus, là. Bon. Non, mais si ça les intéresse pas, les autres, là.
C'est sûr, on t'écoute.
Si,
tout
le monde
est à tu préfères qu'on compte les finales gagnées par le Real?
C'est facile, c'est 12. C'est tellement facile que, voilà, c'est pas peine de calculer.
Si on enlève celle où ils étaient tout seuls au monde à jouer, il y en a moins.
Daniel, il sait bien récupérer ton attention, Fred, quand même.
Oui, bah, il comprend, tu sais. Donc, tu sais, tu parles gonzesse, tu parles Real, bon, c'est bon, je réagis. Même si ça marche beaucoup mieux avec le Real en ce moment.
Donc Dembélé.
Dembélé, ça continue. Rappelez-vous, j'avais fait mon avis tranché il y a une quinzaine de jours en disant Dembélé, ça va marcher. Bon,
non, c'était lundi dernier.
Ah, c'était lundi, oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça a marché en Ligue des Champions.
Le temps passe vite, ma bonne dame.
Mais il a marqué l'autre jour contre Chelsea. Il a fait un match plus que correct. Et encore ce week-end, une passe décisive. Donc Dembélé, ça continue. L'intégration se poursuit. Donc on est là aussi plutôt optimiste par rapport à l'équipe de France. Il va avoir beaucoup de temps de jeu et on le sent de plus en plus libéré. Donc là aussi, comme Lucas Hernandez, ce sont des joueurs qui vont avoir du temps de jeu, qui vont être prêts pour le mondial si on a besoin d'eux.
Très bien. Et eh ben écoute, voilà.
Et puis bien entendu, Cristiano Ronaldo. Mais là, je pense que tout le monde l'a dit. Il vaut de forme.
Oui, il paraît qu'il a marqué les buts et qu'il se remet à marquer et qu'il est bien pour la Ligue des Champions.
C'est-à-dire que
pour aller en gagner une de plus.
Vous allez me dire, Gérone, c'est pas grand-chose. Enfin, sauf que Gérone, c'est quand même la révélation de la saison cette année en Liga, que le Gérone avait battu le Real lors des matchs allés. Et là, Cristiano Ronaldo contre Gérone, qui ont vraiment bien joué hier soir, c'est 10 tirs, 7 cadrés, 4 buts.
Voilà, pas mal.
Qui dit mieux?
Bah oui.
Personne.
10 tirs, effectivement.
Non, mais c'est
10
tirs, 7 cadrés, 4 buts.
6 tirs.
Non, 10 tirs, 7 cadrés,
6 tirs.
4 buts.
Non, 10
tirs,
8
cadrés, 12 buts.
6 tirs et 4 buts, c'est Icardi hier soir.
Ah, ok. Et oui, vous ne laissez pas finir sa phrase, de pauvre Simonet, là.
Vas-y, on a trouvé mieux
que le Real.
Voilà. Icardi, ce sera la vie tranchée de Simonet dans quelques secondes. L'Italie, l'Allemagne au programme. C'est magnifique. A tout de suite.
RMC, le super football show. L'After Foot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, Pierre Ducrot comme tous les lundis et nos drôles de dames, puisqu'il est 23h37, elles sont là jusqu'à minuit. Profitez-en, 32-16, hashtag RMC Live. On a fait l'Espagne, on a fait l'Angleterre avec Philippe Auclair et Fred Hermel. Avant l'Allemagne, avis tranché de David Lorto sur Leipzig, l'adversaire des Marseillais en Europa League. Place à l'Italie, jingle Simone Rovera.
S'il y avait encore Leonardo, hier soir, il savait déjà qu'est-ce qui est sorti dans la Gazzetta. Il appelait l'agent et te dit, vous les joueurs, les agents, tout le monde ferme sa gueule jusqu'à la fin de la saison.
Et Simone... Ça tient encore aujourd'hui, ça. Ça tient encore. Au PSG, ça parle trop.
J'ai peur que ça tienne un moment.
Oui, j'ai peur que, effectivement.
Jusqu'au retour de Leonardo, ça tient, ça.
Oui. Je suis.
Qu'est-ce qu'il devient, Leonardo, là?
Assez inquiet pour le développement.
Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son quotidien? C'est quoi une journée de Leonardo?
Il a arrêté d'entraîner aujourd'hui. Il est
à Milan, là.
Il est à Milan. Il était invité sur un show télé très people, très cool.
C'est-à-dire?
Cette semaine. Des interviews, mais avec des grands, où ils vont toujours des grands personnages de football, de la politique, etc. Et cette semaine, il était invité là-bas, donc ça continue à être un personnage.
Il fait ses petites émissions tranquillement.
Il doit pas être malheureux, hein.
Il doit faire des déjeuners, des trucs.
Ah oui.
Ça doit être très bien.
Mais il peut-être commencer à s'ennuyer un peu, hein.
Ah oui, tu crois?
Du golf. Au bout d'un moment, tu
il joue au golf?
Je sais pas, s'il joue au golf.
Bon.
Je vais lui demander.
Parce que ça occupe bien le golf. Hein. Au bout de combien de temps tu t'emmerderais, toi?
Non,
si tu bossais plus, mais que tu pouvais te permettre de plus bosser.
Ouais, je pense.
Est-ce que t'as assez d'activités à côté pour pas t'emmerder?
Ouais, je pense.
Ouais. C'est pas ouais. Ça. C'est pas.
Je pense 6 mois.
C'est pas
chez le
cassant.
C'est pas 6 mois,
ça. Non. Je sais pas.
Bah, tu dirais quoi?
Bah, je sais pas trop réfléchir au truc, mais si tu me laisses un peu de temps, je fais un peu le bilan sur mes activités à côté.
Et je peux faire ce
ou
que
les
je
nouvelles
veux.
Que je peux.
J'ai oui, que du temps libre,
t'as le blé,
ce
que tu veux, t'as le blé, c'est bon.
Ouais,
t'as Leonardo.
6 mois, je pense. Oh, toi, 6 mois, ouais, je pense.
Ouais. Ouais, il est possible que je fasse jamais
chier. Un bouquin.
Ah, il est possible que je
ne
revienne pas.
Ouais,
mais il est cool la vie tranchée de Simone.
Ouais, on arrive.
Vas-y, Simone.
Pardon. Non, mais t'aurais pu poser la question directement à Pierre, justement, dans son quotidien, lui qui maintenant.
Réussit tellement que voilà.
Putain, tu rigoles, j'arrête pas. Moi, je travaille tous les jours.
Mais c'est pas oasis.
Oui, pour t'occuper, justement.
Bon, Simone, c'était la Serie A ce week-end.
Alors, Icardi.
Comment la Juve a pu tomber à Spal?
Avis tranché sur Icardi.
Ah, mon passe-pal.
Ils sont pas tombés, il y a eu match nul.
D'accord. Il y a eu match nul, c'est tombé, pas tombé.
Non.
On arrive à parler de la Juve. Avant, je voulais parler d'Icardi parce que déjà, elle fait un week-end un peu remarquable, vraiment. C'est pas seulement pour les 4 buts qu'il met face à la Sampdoria, c'est parce qu'il dépasse cette barrière un peu mythique, historique des 100 buts en Serie A. Il devient le 6e plus jeune joueur de l'histoire de la Serie A d'arriver à 100 buts. Et les 5 devant lui, c'est des joueurs dont je pense beaucoup de nos auditeurs n'ont jamais entendu parler, mais ce sont des légendes du football italien comme Meazza, Piola, Boniferti, Borel, Altafini. Donc des joueurs né avant la guerre, la deuxième guerre, quelqu'un même avant la première. Donc, il faut dire que la performance d'Icardi est extraordinaire pour les numéros de buts qu'il marque chaque saison, pour le numéro de buts qu'il a mis depuis son arrivée à l'Inter, pour la qualité aussi de ce but, de son être extraordinaire dans la surface, d'être toujours en avance sur les défenseurs, d'être surtout l'homme qui change les visages de l'Inter, parce que c'est pas seulement une poème pour Icardi, c'est David Tranché, c'est à dire combien il pèse sur la saison de l'Inter. Je crois qu'on l'a vu dans les statistiques sur BFM Sport, il a marqué 22 buts sur les 47 de l'Inter, c'est les 47% de buts de son équipe. Quand l'Inter était lancé première au classement, il marquait presque un but à chaque match. Dans les premières 15 matchs, il a marqué 16 buts. Et quand en novembre j'ai dit, si Icardi continue comme ça, l'Inter peut être la surprise pour les titres. C'était vrai. Les gros trous noirs de la saison de l'Inter, c'est aussi les trous noirs d'Icardi. Sur la période où l'Inter gagne, fait 12 matchs où il ne gagne que 2, Icardi marque 2 buts. C'est vraiment l'Inter est fini quand Icardi est fini. Je pense que ça peut être un peu les printemps qui commencent pour Mauro Icardi, aussi parce que Spalletti a changé certaines choses, il a mis plus de joueurs de qualité au milieu de terrain, Rafinha est devenu titulaire incontournable, Brozovic qui était un faux numéro 10, il a fait 2 passes en arrière et il joue dans le milieu de terrain où il peut donner un peu plus de qualité, et on a aussi un retour de Perisic qui est bon, mais je trouve vraiment que si aujourd'hui l'Inter a aussi des espoirs de continuer à garder la 4e place et aller en Ligue des Champions, c'est sur la bonne fin de saison d'Icardi. Vraiment, les joueurs qui donnent quelque chose en plus. Aujourd'hui, peut-être aussi les 9, mais les joueurs plus décisive en Serie A pour son équipe. Parce que si l'Inter avait eu les meilleurs Icardi pour toute la saison, on peut faire la saison à la Mohamed Salah. Aujourd'hui, on serait encore en train de parler probablement d'une Inter en lutte avec la Juventus et Naples pour les titres.
En fait, on attend son transfert maintenant. On a envie de savoir où il va atterrir, parce que là, à l'Inter, je vois pas vraiment de développement avec les propriétaires qu'il y a. On a envie de le voir ailleurs maintenant.
C'est quel chapeau Icardi pour vous?
Dans les purs neufs.
Ouais.
Il y en a de moins en moins. Il est pas loin entre un et deux, largement. Attends, je te refais un. D'ailleurs, il faut qu'on les refasse tes chapeaux. Il y a longtemps.
C'est toujours sa femme qui s'occupe de lui.
C'est toujours sa femme.
C'est souvent la femme qui s'occupe.
Si vous regardez un peu, c'est.
Arrête de dire une blague à moi, ça. C'est pas.
Pardon.
Ces histoires Instagram. Si vous êtes passionné des réseaux sociaux, ils sont à Paris, ils sont à Disneyland pour profiter. Pour profiter de ses jours de vacances. Et je pense que la femme a même fait un tweet en disant Paris est toujours magique, que ça peut faire aussi.
Ah, c'est un appel du pied.
Quelque chose comme ça, allez voir sur Instagram.
C'est un mec qui, depuis 3-4 ans, marque plus de 25 buts, quoi, non?
Ouais, il a marqué 2 fois 20 buts.
Ça fait partie des meilleurs.
Sa meilleure saison, la saison dernière, c'était 24. Il est déjà 22. Donc, c'est sûr qu'il va dépasser son record. Pour son avenir.
Il plaît au Real,
Pour son avenir, il faut être très clair. Ouais. Il a une clause de 110 millions d'euros qui est valable entre les 1er et les 15 de juillet. Et l'Inter est en train de renégocier en ce moment avec sa femme, son agent, sa femme, et une révalorisation salariale pour changer aussi la clause. Icardi en ce moment demande 8 millions nets par an. L'Inter offre 6,5, il est à 5. Et l'Inter veut monter la clause à 200 millions. Si jamais ils trouvent un accord, la clause pourrait être augmentée, mais pas de 100 millions, par des 150. Donc, c'est la situation d'Icardi.
Ouais, le chapeau, je suis en train de faire.
Vas-y. 100 millions, c'est beaucoup quand même.
Balance ton chapeau,
Non, mais je suis allé vite. J'ai mis d'abord tous les noms des mecs sans vraiment chapeau, mais quand je vois la liste, je me dis qu'il doit bien être dans les 8, quoi. Si tu prends
les vrais numéro 9.
Ouais, Messi.
Non, mais si c'est pas un vrai numéro 9.
Si joue en 4-4-2 dans les deux de devant, excusez-moi.
Oui, mais pas 9.
Mais si
joue
en 4-4. Non, mais Messi, c'est.
Ouais, voilà, Suarez.
Et Ronaldo, c'est pas un vrai 9.
Ronaldo, c'est pas un vrai 9.
C'est pas
le 9 du Real Madrid.
Bah, c'est Benzema.
Essaye de ne pas insulter Fred Hermel en te trompant de qui porte le 9 dans ce club.
Non, mais c'est vrai que Cristiano Ronaldo évolue de plus en plus. Parce qu'en plus, comme le système Real a changé, que c'est en 4-4.
Non, mais 9.
Mais c'est dans ce cas-là, on parle pas de ce qu'ils font aujourd'hui. On parle de la particularité, le joueur intrinsèque, Cristiano. C'est pas un numéro 9.
D'accord.
Voilà. Mais si, c'est pas numéro 9. Il a beaucoup de buts, mais c'est pas des vrais numéros 9.
Et donc la Juve qui bute sur le terrain d'Ospal.
Oui, c'était. Alors, moi, je m'attendais à un faux pas de la Juve, mais je m'attendais plus de le voir après la trêve face au Milan. Il sort d'une série extraordinaire, 12 victoires consécutives. Ils sont encore une équipe qui, en 2018, en Serie A, n'a pas encaissé des buts. La seule équipe qui a marqué des buts face à la Juve en 2018, c'est Tottenham. C'est un peu aussi physique, une panne physique. Il a eu beaucoup de blessures. Il y a eu des retours des blessures, comme Higuain et Dybala, qui ont toujours joué dès qu'ils ont été disponibles. Et on a vu vraiment un peu une Juve qui était à la fin de son réservoir d'essence. Donc c'est un peu inattendu vu les valeurs de l'équipe adverse qui joue le maintien, mais qui a été extraordinaire d'un point de vue du combat et de l'agressivité et des duels. La Juve quand même reste avec ses 2 points d'avance parce que Naples a gagné, donc a rattrapé un peu son retard. Et la chose intéressante, c'est qu'avant cette magnifique finale, peut-être, du championnat, le 22 avril, Juve-Naples. Juve.
22
Naples,
avril, on sait l'heure. Faut noter ça. C'est comme quand je demande à Philippe l'agenda précis et tout. Faut pas déconner.
22-45. Les deux équipes, quand même, vont jouer avant face au Milan.
22 avril, c'est un samedi soir?
Oui, ça devrait être un samedi soir, 22 avril.
20h45.
Ça se note. Merci.
Et donc, les Milan qui reviennent très très fort avec 8 victoire sur le 9 de dernier match.
C'est un dimanche.
Okay.
21, t'as dit ?
Les 22.
22, dimanche soir.
Bon, okay. Donc Milan.
Donc Milan qui revient vraiment en forme et avec des matchs, des résultats et du jeu et de l'intensité. 2 matchs gagnés, les 2 derniers en fin de match, vraiment avec plus de courage que du jeu. Voilà, mais Milan aujourd'hui, c'est un adversaire difficile. Va être peut-être les juges avant la confrontation directe, parce qu'après la trêve, la Juve va recevoir Milan, et 2 semaines plus tard, Naples va jouer face au Milan. Donc, ça va être un drôle de retour de trêve pour Milan, qui sur les
quatre matchs qu'il joue de retour de la trêve. Il a la Juve, à les derbies et la Naples, donc il joue son avenir pour la Ligue des Champions, Milan, et aussi l'avenir du titre.
Il n'y aura pas de grosse affiche de Ligue 1 ce soir-là en même temps.
C'est 20h45.
Dimanche soir, je vois pas, parce que qu'est-ce qu'ils vont mettre? Il y a Bordeaux-PSG, Marseille-Lille, Dijon-Lyon.
Les titres vont être déjà joués ce soir-là.
Guingamp-Monaco.
En Ligue 1, ce sera peut-être le match du titre du PSG à Bordeaux.
Ouais, ou le match, le titre face à Monaco, c'est plus probable.
Ah! Alors, il faudra quand même voir Juve et Naples.
Hein. Oui, voilà, oui, on connaît. Direct ce soir.
Et puis, tu voulais glisser un mot sur Balotelli pour finir.
Oui, une dernière parce qu'il n'a pas été sélectionné. Di Biagio a fait comprendre que ce n'est pas un choix comportemental, mais c'est un choix tactique. Il n'y a pas que le but, il a fait comprendre. Je trouve que Di Biagio n'a pas voulu trancher sur l'avenir de Balotelli. Hein. Il a préféré prendre Cutrone et Chiesa, des jeunes quand même, aussi parce que lui, ancien sélectionneur.
Il a pris qui comme attaquant alors ?
Cutrone.
Cutrone, Belotti et Immobile. Belotti qui ne fait pas une grande saison.
Ah ouais, Belotti, il s'est écroulé, il était donné à 90 millions par temps, là, il a fait une saison de dingo, il n'est pas revenu après sa grosse blessure.
C'est le président de Torino, de
ne pas l'avoir vendu. Il faut toujours vendre quand on est au sommet de sa valeur.
J'ai l'impression que
tu le sais. Mais surtout pour ces clubs-là.
Mais comment tu le sais?
Non, mais dans ces clubs-là. Mais dans ces clubs-là, il y a des choses que tu peux pas refaire.
C'est ça, Fred. T'as raison.
Bah oui.
Je sais pas, à ce moment-là que t'es au sommet de la valeur.
Il faut savoir.
Oui, bah bravo, merci. Faut être voyant, quoi.
Pas du tout.
Comme on a quoi,
mais Fred, c'est très bien qu'il y ait
peut-être
femmes,
que
le
Daniel pourrait donner des conseils sur Bitcoin.
Et c'est
pas,
très bien qu'il reviendra plus en arrière de ce côté-là.
Et t'as dit, Philippe?
Peut-être que Daniel pourrait donner des conseils sur Bitcoin.
Bien sûr, je suis sûr.
Ah non, mais le conseil que je te donne, ne fais pas.
Ok.
C'est déjà trop tard.
Non, il préfère les empereurs russes.
1900.
Simonet. Non, oui, pour terminer, Di Biagio, j'ai l'impression qu'il a voulu en mettre en valeur son travail avec les espoirs avec Cutrone aussi, parce que lui aussi joue énormément sur ces deux matchs, d'être confirmé pour les deux prochains matchs amicaux, et lui, il veut rester à la tête de la sélection. Ouais. Donc faire voir que son travail avec les jeunes peut-être est payant, pourrait l'aider.
Et dis bien, Joe, qu'il y a eu les mots traditionnels au moment où un match de l'équipe d'Italie, on attend plus de Verratti.
Ah oui.
C'est la phrase classique maintenant.
Oui, enfin, c'est Di Biagio, il est bien gentil. On attendait un peu plus qu'un penalty sur la barre à l'époque, donc maintenant il n'a pas à la ramener. On enchaîne sur l'Allemagne. Jingle leur tour.
Tous balles pour vous. 24 balles. Quel gâchis pour des gens comme vous. Qui sont vos complices?
À chaque fois qu'on l'entend, on a la photo nous sur BFM Sport de David Lorto et je l'imagine dire ça en fait, c'est toujours magnifique. J'imagine parler allemand, Lorto. Alors David, tu veux nous parler de Leipzig, tombeur du Bayern et futur adversaire de l'OM.
Même, et oh, non, pour une fois qu'il se passe un truc chez toi mon vieux.
Ben là, c'est un événement. Tu as raison, Daniel. Ah oui. C'est un événement parce que dans sa courte histoire et jeune histoire, le RB Leipzig n'avait encore, on le sait, jamais battu le Bayern. Il s'en est fallu de peu certaines fois. Notamment une défaite au tir au but en coupe lors du le dernier match qui avait opposé les deux équipes. Mais cette fois-ci, RB Leipzig a réussi un super coup et c'est un événement en Allemagne parce que le Bayern n'avait plus perdu de mémoire depuis le 13 novembre. Ça commence à remonter quand même. On peut dire, même si on veut résumer, que le Bayern ne perd pas avec Jupp Heynckes. Donc là, c'était une défaite qui peut paraître un peu surprenante vue de l'extérieur. Et la deuxième surprise qui va dans le sens du RB Leipzig et qui va donner peut-être quelques mots de tête à l'OM, qui sera son adversaire au prochain tour de Ligue Europa, c'est que, contrairement aux adversaires habituels du Bayern, qui se regroupent en défense, qui jouent avec 4, 5, voire 6 défenseurs, et qui subissent pour finalement perdre à l'arrivée, le RB Leipzig hier, et je vais en dire un mot un peu plus précisément, a pratiqué un beau football, a fait preuve de courage. L'entraîneur Hasan Hüttl avait mis en place un 3-4-3 avec trois défenseurs très jeunes, notamment les deux Français, Konaté et Upamecano, très très jeunes, 37 ans à eux deux, je crois bien. Et ce 3-4-3 qui avait été mis en place par Hasan Hüttl n'avait été justement mis en place que dans un seul entraînement avant le match. Et ça, c'est quand même un choix. Il a hésité, on le sait, il l'a dit après aussi. Il a hésité à opter pour cette stratégie offensive. Il a finalement opté pour cette stratégie-là et ça a fonctionné. Attitude offensive de son équipe, milieu de terrain très joueur avec, évidemment, et on n'en reparlera jamais assez, Naby Keïta qui va partir vers l'Angleterre l'été prochain.
Oui,
excellent. L'agressivité aussi qui va bien et qu'on connaît avec cette équipe de Leipzig qui, elle, évidemment, on la voit toutes les semaines. Il y a un banc aussi dans cette équipe. Parce que figurez-vous qu'au coup d'envoi, Timo Werner, qui est attaquant maintenant de l'équipe nationale, était sur le banc. Le Suédois Forsberg, l'un des maîtres à jouer, était sur le banc aussi. Ils sont entrés tous les deux en cours de jeu. Jean-Kevin Augustin n'était pas sur le terrain, alors qu'il est habituellement, souvent aussi dans le 4-4-2, il est titularisé. Et le défenseur capitaine Villiers-Orban n'était pas sur le terrain non plus. Donc ça veut dire que cette équipe, même si on connaît pas encore très bien ses joueurs, a déjà aussi un groupe et un banc. Il y a dans cette équipe aussi, je continue les arguments qui vont faire mal à la tête. Pardon ?
Oui, vas-y, enchaîne.
Je continue les arguments qui vont faire, qui vont donner des céphalées au camp de l'Olympique de Marseille. Comme disait Coluche, il y a un esprit d'équipe, c'est un esprit et une équipe. Mais là, c'est aussi un esprit d'équipe.
Il a avalé le Vidal, de l'ortho.
Il y a l'esprit, c'est Ralph Hasenhüttl, l'entraîneur, qui est une espèce de pile électrique sur le bord du terrain. Et on sent bien que ce gars-là insuffle à ses joueurs une vraie volonté. Mais il y a un esprit d'équipe collectif, il y a un esprit de corps aussi dans cette équipe, qui est capable d'action, mais qui est capable de réaction aussi. J'en ai souvent parlé, c'est une équipe de contre fulgurante. Ça va très vite, notamment le but du 2-1.
Bon, pour toi, il n'y a pas de doute, ils vont cogner l'OM. C'est ça que tu essayes de nous dire, sois clair.
Bah oui, c'est en deux, trois passes, on arrive à l'avant-centre ou à l'attaquant et ça fait mal derrière. Cette jeunesse-là, en plus, elle supporte l'enchaînement des matchs. Typiquement, cette semaine, jeudi, qualification pas très facile contre Zénith. Et derrière, victoire contre le Bayern. Il y a un jeune que Philippe a peut-être vu passer à Everton, un jeune de 20 ans qui a démola Lookman.
Absolument, super rapide et très technique.
Encore une fois, l'illustration de l'inspiration et de l'instinct des dirigeants aussi de Leipzig à aller chercher des joueurs qui sont pas forcément formés là, mais qui sont très jeunes et très bons, qui avaient marqué un but vainqueur dès son premier match avec Leipzig. Et puis, mon dernier argument pour aller dans le sens de cette équipe, c'est que déjà, il y a une forme d'expérience. C'est une équipe qui a moins de 24 ans de moyenne d'âge et très jeune. Et je l'ai dit notamment à l'image de cette charnière centrale là, avec Upamecano et Konaté qui ont 18 et 19 ans. Il y a déjà une forme d'expérience dans cette équipe. Contre le Bayern en coupe, je le disais tout à l'heure, ils ont dominé, ils étaient dynamiques, ils ont montré de l'engagement, ils ont perdu certes au tir au but, mais déjà il y avait une forme de jeu égal avec le Bayern. Alors simplement pour en finir avec ce tableau, ce week-end il y avait quand même un trompe-l'œil, c'est que bien sûr le Bayern avait 20 points d'avance en championnat sur Schalke et Dortmund, bien sûr le Bayern va commencer à cibler un peu ses objectifs et à ne pas jouer forcément à fond la caisse et à la Vidal. Comme disait Daniel à l'instant, sur tous les matchs. Donc ça, c'est peut-être aussi ceux dont Leipzig a su profiter. Mais moi, je voulais insister ce soir sur les arguments de cette équipe qui sont quand même nombreux et qui peuvent faire peur.
Très bien. Bah écoute, je crois que t'as fait peur aux supporters marseillais, s'il y avait besoin. Au-delà de ça, dans l'actu, tu voulais parler de celui qui s'éclate à Dortmund. C'est Batshuayi qui a encore fait gagner son équipe. Le duo Batshuayi-Reus, là, ça fait mal. Hein.
Ouais, il faut dire un mot de Michy Batshuayi parce que 7 matchs, 6 buts. Et sur ces 6 buts, 6 étaient une ouverture de score. Et derrière, il y a eu, dans 2 cas sur 6, il y a eu le but vainqueur, donc c'était ce 1-0. Il est en train effectivement de s'éclater. Il a marqué un but assez esthétique en plus ce week-end sur un corner qui a été prolongé d'une belle talonnade aérienne. Et puis c'est le but vainqueur. Et Dortmund en est maintenant à 2 victoires consécutives à la maison, ce qui lui était pas arrivé depuis des lustres. 6 mois je crois et Dortmund à l'image de Batshuayi vraiment suit cette locomotive en ce moment et prétend évidemment avec Schalke, on en a déjà parlé dans les semaines précédentes, prétend avec Schalke à la deuxième place derrière le Bayern.
Eh ben écoute, très bien, Batshuayi qui s'éclate, effectivement. On a fait le tour, je voulais juste vous donner la petite info Ligue 2 et aller lire sur rmcsport.fr, ça n'a rien à voir avec les drôles de dames, mais je voulais quand même donner ça en fin d'after. Vous avez vu ce qui s'est passé vendredi entre les deux joueurs d'Auxerre qui se sont battus.
Ah oui, qui sont castagnés comme les joueurs de Newcastle, comme Kieran Dyer et... comment s'appelle-t-il déjà? C'est déjà arrivé, hein. on pourrait faire une compilation.
Barreto et Paulo Matt, donc les deux joueurs d'Auxerre, mis à pied à titre conservatoire, va y avoir un entretien avant de futures mesures disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à la rupture de contrat. Vous avez les propos de Francis Graille sur rmcsport.fr.
S'il y en a un des deux qui est en balance, ils vont se servir de ça, ça va être beau. Tiens.
Ah bah oui.
Il aura mieux fait se retenir.
Merci messieurs, merci les drôles de dames. Simone Rovera, David Lorto, Philippe Auclair, Fred Hermel.
C'est beau.
Magnifique. C'est beau. Et pourtant, on a fait des digressions, Daniel, hein, et des parenthèses et des machins.
Non, on n'avait pas voulu. À un moment, on a parlé de l'ancien groupe de musique préféré de Fred Hermel, on n'a même pas pu relever.
Lequel?
Bah, ou le Upamecano. Défenseur de Leipzig, là.
Voilà, ou pas Mécano. Voilà, très bien.
C'est bien, c'était bien Mécano.
Arrête, c'était complètement
arrête,
nul.
C'était génial. Quoi.
C'était nul, j'ai fait exprès pour te lancer, pour que tout le monde voit à quel point tes goûts musicaux sont merdiques.
Alors, très bien. Et eh ben alors, ça se finit bien. Je vous rappelle que demain, émission, même journée spéciale, champion du monde 98, tous les champions du monde seront, en tout cas la plupart, seront à la canopée des Halles pour un Team du Gaz spécial entre 18h et 20h avec le trophée de la Coupe du Monde qui sera là. Et demain, soir, 20h minuit spécial, on revit France-Brésil 98. Le trophée est à Paris. On est 20 ans après la victoire de l'équipe de France en 98. Le match en intégralité, le débrief dans l'after, comme si on y était. Très bonne bien. Nuit Daniel, bonne nuit Pierre.
Bonne nuit, hein. Bonne nuit Jean-Louis.
Et à demain, ciao. Bye bye.
Salut à tous, ciao.
RMC, le super football show, l'after foot.